Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Dieu ou le monde, bonjour Don Maxence Bertrand.
Bonjour.
Alors j'ai une toute première question que je ne vous avais pas posée le premier jour de notre rencontre. Ce titre, vous l'avez choisi, Dieu ou le monde ?
Alors, j'ai consenti, parce qu'il a été proposé par l'éditeur. Le titre initial auquel j'avais pensé, c'était « Aimer ou combattre le monde ». Et c'est un peu la problématique du livre.
Et puis c'est tout le cœur, de votre livre.
Et c'est le cœur du livre, tout à fait.
Oui, oui. Ouais. Alors, puisqu'on parle du livre, je vais reprendre, lire un petit extrait, page 125. Alors, vous parlez de la charité. La vraie charité, qui est la sainteté, est accessible à tous. Et peut-être surtout aux plus pauvres et aux plus humbles, à ceux qui ne s'appuient pas d'abord sur eux-mêmes, sur leur facilité, leur conscience, sous leur volonté. Au fond, j'ai presque envie de vous interroger dans ces dernières minutes, puisqu'on l'enjeu, on parle de cette question aussi du salut. On évoquait aussi ce mystère de la croix avec, au pied de cette croix, le disciple bien-aimé et Marie. Ils ont vécu l'évangile. Marie a vécu vraiment cette charité de l'évangile. Mais qu'est-ce qu'on entend par charité aujourd'hui dans notre monde, dans Maxence Bertrand, dans notre Église et dans notre quotidien, et quand on est et quand on se dit croyant? La charité, c'est être au service des plus pauvres, ceux qui sont dans la précarité. La charité, qu'est-ce qu'elle dit de la vérité? Voilà, est-ce que vous pouvez mettre un petit peu de lumière sur ce terme de charité?
Oui. Il y a un évangile qui me nourrit beaucoup quand je pense et que je demande cette charité, c'est celui des noces de Cana. C'est-à-dire que, parce que c'est très mystérieux que le Christ ait fait comme premier miracle celui-ci de subvenir à un dîner mal organisé, quoi. Pourquoi lui qui a ressuscité des morts, lui qui a guéri des lépreux, qui a rendu la vue à des aveugles, pourquoi il a juste fait ce miracle? À la fin de l'évangile, j'ai envie de dire merci beaucoup, c'était très sympa, mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ce miracle-là? D'autant plus que les disciples comprennent très bien ce qui se passe parce qu'ils disent à la fin qu'ils reconnaissent la gloire de Dieu et donc ils voient en lui sa divinité. Et en fait, j'étais très marqué par quand j'ai réalisé ça, que dans la Bible, de la première page jusqu'à la dernière page de la Genèse à l'Apocalypse, le vin et la vigne, c'est l'image de l'amour humain et divin. Et donc, manquer de vin à un mariage, ça veut dire qu'on a vidé les stocks de notre amour naturel. Et ça, c'est une expérience qu'on a tous fait. C'est-à-dire qu'il y a tous un moment en famille ou dans nos relations, on en a marre, on n'en arrive plus à aimer, on n'a plus les ressources, et on a une certaine pression parce qu'on nous demande quelque chose qu'on n'a pas en réserve. C'est-à-dire qu'on nous demande de l'écoute et on est crevé, on nous demande du temps et on n'en a pas, on nous demande un amour et on est fatigué d'aimer l'autre parce qu'on a une lassitude, on a quelque chose... Voilà. Et là, dans cet évangile, Jésus se désigne lui-même comme la source d'un amour nouveau qui ne sera pas épuisable, parce que c'est ces 600 litres que Jésus va transformer d'eau en vin, ce qui est considérable. Donc ça ne sera pas épuisable, et en plus cet amour est meilleur. Et donc je trouve que c'est un bel évangile pour parler de la charité, pour dire que c'est cet amour en surcroît qui ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas juste nos ressources psychologiques, c'est un amour qui nous est donné comme de l'intérieur de notre âme, et qui passe par notre humanité, mais qui nous est donné en surcroît par Jésus, quoi.
Donc quelque chose qui sort, qui devient surnaturel.
Qui est surnaturel. Mais qui est surnaturel, au fond. Donc c'est vraiment, la charité, c'est vraiment l'amour de Dieu lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas notre empathie humaine, c'est notre charité, c'est l'amour surnaturel de Dieu.
Donc, à ne pas confondre avec peut-être les termes de solidarité.
Alors, solidarité, empathie, etc. Alors, c'est-à-dire, en fait, ça n'est pas ça.
Parce qu'il y a des termes aujourd'hui.
La charité, l'amour de Dieu n'est pas juste notre solidarité, notre empathie, notre gentillesse. En revanche, cet amour surnaturel peut passer au travers de la solidarité, de l'empathie humaine, de l'écoute, etc., de la gentillesse et de la bonté. Voilà. Mais c'est une espèce de... C'est vraiment l'image que Jésus prend de la vigne. Hein. C'est, si vous demeurez en moi, alors vous porterez du fruit. C'est cette espèce de sève qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui va en effet passer par des choses du coup très simples, par le fait de nourrir un enfant, de secourir un pauvre, d'éduquer des jeunes. Enfin, ça va passer par des activités humaines, mais la sève de l'intérieur, c'est l'amour surnaturel de Dieu lui-même.
Et au fond, se vit la charité aussi dans l'enseignement?
Et la charité se vit aussi dans l'enseignement, tout à fait. Quand on se donne soi-même dedans, quand on enseigne la vérité, pas la nôtre, mais celle de Dieu aussi. Et donc, pour nous dans l'Église, comme prêtres aussi, c'est-à-dire, c'est un grand enjeu, ça, hein, de dire est-ce que j'enseigne mes idées, même dans ce petit essai que j'ai écrit, est-ce que je transmets ce que moi je veux, ce que je pense, ou est-ce que je transmets ce que l'Église enseigne, voilà. L'Église enseigne ce que la Bible a transmis, ce que la parole de Dieu transmet. Donc c'est tout un. Mais nous, ça nous renvoie du coup la charité toujours à une forme de pauvreté. C'est que la charité doit passer au travers de notre pauvreté, notre disponibilité, on pourrait dire. C'est un peu la même chose.
Souvent, charité se conduit bien aussi avec la vérité. Cette vérité qui, normalement, nous rend libres.
Alors c'est dans
fait des hommes et des femmes libres.
Oui, notre liberté, elle vient de cet alliage qui est difficile, qu'il faut recevoir comme une grâce. Vous savez, on dit souvent que la charité sans la vérité est pourrie, et la vérité sans la charité est amère. Voilà. Et donc, il faut se méfier de chercher un consensus entre les deux. C'est vraiment une grâce. Donc, c'est pas un consensus, c'est une porte, c'est un nouveau chemin, c'est une grâce qui nous est donnée par Jésus. Le témoignage de Jeanne d'Arc, de Thomas More, le témoignage de tous ces saints-là, c'est des saints qui ont trouvé leur témoignage, non pas dans un équilibre ou un consensus humain, mais dans la grâce de Jésus. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans le livre, mais que je dis, c'est une phrase de Mauriac. Mauriac dit « Il existe bien parfois des saintes colères, il n'existe jamais de saintes humeurs. » Ça veut dire que quand Jeanne d'Arc s'exprime devant son tribunal, quand Bernadette s'exprime aussi dans ses réquisitoires, dans ses etc., ni l'une ni l'autre ne le font d'un cœur énervé. Et donc elles ne sont pas énervées, elles ne sont pas tendues intérieurement, elles ne sont pas excitées. Thomas More n'est pas excité non plus. Il y a bien des moments où elles ont peur, il y a bien des moments où elles souffrent, mais en fait elles le font mues par la grâce de la charité, cette grâce surnaturelle qui vient de Dieu, quoi. C'est le témoignage de l'Esprit Saint. Ne cherchez pas votre défense, etc., dit Jésus à ses apôtres la veille de sa mort, cela vous sera donné sur le moment. Et donc c'est parce que je suis branché au fond sur la vie du Christ que ce témoignage m'est donné.
Voilà. Au fond, vous parlez être connecté avec le Christ, être connecté aussi par les sacrements de l'Église.
Demeurer dans mon amour, c'est vraiment ce grand discours de Jésus avant la scène. Demeurer dans mon amour, c'est demeurer avec lui dans sa parole, dans les sacrements, dans la vie de l'Église, dans toutes les ressources qui nous sont données, dans la vie d'oraison, dans le regard théologal aussi, qui est un très grand enjeu aujourd'hui. On a tellement de bruit médiatique, tellement de bruit ambiant, que le fait de creuser pour avoir un regard surnaturel, profondément surnaturel, c'est un grand enjeu. Regard de foi.
C'est un regard et un cœur qui est appelé à une conversion.
Oui,
c'est une conversion du cœur, une conversion du regard, en vue de poser véritablement ces actes de charité, et des actes qui conduiront à la mission et à la fécondité de la mission.
Oui, exactement. Et en fait, cette mission, elle est extrêmement féconde. Vous savez, Sainte Thérèse d'Avila, c'est très beau, dans le château intérieur, donc sont ces 5 ou 600 pages de vie mystique et de
vous
vie spirituelle.
Vous avez lu tous les tomes de
Thérèse d'Avila?
Non.
À la fin de ces 5 ou 600 pages sur la vie mystique, elle termine en disant « des œuvres, et des œuvres. Parce que la vie spirituelle débouche sur une vraie fécondité évangélique. Et donc, on peut lire Saint Jean de la Croix, on peut travailler, on peut avoir une vie d'oraison, etc. Et les plus grands saints qui ont prié, etc., ils ont une fécondité exceptionnelle parce qu'ils en effet, ils étaient, vous l'avez dit, reliés, connectés, unis à Jésus-Christ.
Oui. Alors, certainement connectés et unis à Jésus-Christ dans sa passion.
Dans sa passion, donc, ce mystère dans sa résurrection.
De la croix. Ouais. Et sa résurrection.
Oui. Et donc la vraie question, c'est ni Dieu ou le monde, c'est ni aimer ou combattre le monde, c'est comment rester uni à Jésus dans le monde, comment suivre Jésus dans le monde.
Et au fond, comment se connecter et ne pas se tromper de connexion.
Oui, oui.
Parce qu'on peut aussi beaucoup se connecter aussi à des faux prophètes.
Oui, il peut y avoir beaucoup d'illusions. Alors, dans les moments de crise, il faut revenir aux fondamentaux, hein. C'est-à-dire la communion régulière, la confession régulière, l'humilité de l'intelligence, la méditation de la parole de Dieu. Il faut revenir à des choses très, très simples.
Alors, si on s'adresse à des croyants, bien sûr, oui. Dans cette série des Clés pour vivre, oui. Dont Maxence Bertrand, des personnes qui sont catholiques, pratiquants. Mais cette émission est, je dirais, quelque peu pour tous, donc croyants, non-croyants, ou ceux qui se sont éloignés pour un temps de l'institution et de l'Église catholique. Alors, un mot aussi pour chacun d'entre eux. Et c'est ainsi que nous terminons cette série.
Ben, je veux bien conclure en disant que dans les 40 ans que le peuple d'Israël a passé au désert, finalement le grand, grand combat d'Israël a été la récrimination intérieure. Et en fait, le peuple a récriminé, a râlé contre les ennemis, contre les nations païennes parce qu'ils étaient trop forts, et c'était vrai. Contre Dieu parce qu'il était trop absent, et parfois c'était un peu vrai. Contre Moïse et Aaron parce qu'ils n'étaient pas dignes, et parfois c'était un peu vrai. Et en fait, dans notre situation, dans une crise, etc., on a toujours des motifs hyper légitimes pour râler intérieurement, pour se plaindre, pour s'inquiéter, etc. Et le grand message de l'évangile de Jésus, c'est n'ayez pas peur. Et donc, c'est de trouver notre paix dans sa parole, dans notre attachement à lui, etc. Et lui, il nous apaise. Voilà. On a toujours le choix entre récriminer et lui confier l'itinéraire de notre vie. Et donc le volant, voilà, c'est lui qui conduit.
Ouais. C'est une très belle conclusion, dont Maxence Bertrand. Merci, donc n'ayez pas peur, c'est vraiment les paroles de Jésus dans l'Évangile. Oui. N'ayez pas peur en ces temps particuliers de confusion, de troubles, de grande peur et au fond de crise. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur aussi de découvrir cet ouvrage de dont Maxence Bertrand, prêtre depuis 2015 dans la communauté Saint-Martin et puis en mission depuis septembre 2021 ici dans ce sanctuaire de Lourdes auprès des jeunes. Donc on vous souhaite une très belle mission et puis je vous ai pris du temps car vous êtes appelé justement à votre vocation de prêtre et de confesseur. Donc je vous laisse aller en confession.
Merci beaucoup.
Maxence Bertrand, merci au revoir.
Beaucoup.